9h, dans le bureau de Parjupiter.
Dites, ouais. On reçoit les goguettes. Mais vous aussi, en fait, vous jouez les chansonniers de temps à autre avec Fromet.
Oui, tout à fait, oui, oui. Oh, oui.
Mais c'est super cohérent, en fait, cette émission.
Sauf que non. Non. De mon point de vue, c'est pas cohérent.
Non, mais préviens, Léo, quand t'arrives, là.
C'est vrai. Et puis attends, mais d'où on n'est pas cohérent, quoi.
Bah, vous êtes pas vraiment des chansonniers.
Bah, ah bon, et mon groupe, les Disruptives, c'est quoi? C'est un défilé de majorettes?
Je crois pas, parce que les majorettes, c'est des filles qui font tourner des bâtons en jupette, non?
Oui, c'est ça, bah oui.
Bah, je dis juste que pour être chansonnier, faut être solide, musicalement.
Attends, parce que non seulement j'ai étudié le piano, mais tout le monde s'accorde à trouver mon bémol assez épatant. Hein.
Ouais, bah, enfin, pour l'avoir déjà entendu, ouais. Techniquement, ton bémol, c'est plutôt un la dièse. Ouais. Et Juliette, faudrait qu'on parle des harmonies de ton rire un autre jour. Allez, vas-y, Charlie, on t'écoute.
Ok.
La vache, ça m'a réveillé ma sciatique, là.
Attendez, je vous ai prévenu, c'est le piano que j'ai étudié avant tout.
Concentrez-vous. Soyez inspirés. C'est qui votre chansonnier préféré?
Alors, moi, je suis corporate, je vais dire Fred Fromet.
Moi, c'est Michel Sardou. Hein.
Mais il n'est pas chansonnier du tout, Michel Sardou.
Bah, attends, un chansonnier, c'est bien quelqu'un qui fait les blagues politiques en chantant.
Oui.
Donc Michel Sardou.
Ouais, normalement, c'est censé être du second degré quand même.
Je baisse les bras, faut se rendre à l'évidence, la scène est vous, ça fait 4.
Oh, bah tiens, 4, comme les goguettes.
Ah, oui. Voilà, ça c'est un signe.
C'est vrai,
on monte une troupe, j'ai pensé aux internés en référence à Inter.
Ah ouais, génial.
Mais vous écoutez ce que je dis?
Mais attends, mais c'est super. Et on pourrait rajouter sur l'affiche en quintette, mais à 4.
Mais c'est génial. Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça, Guillaume?
Je sais pas, ça m'est bien comme ça.
C'est vrai que ça a l'air d'avoir bien les internés finalement.
Mais où?
Mais je suis un génie, je sais pas.
Bonjour la France Inter et bienvenue à la sous-préfecture de la rigolade, dont voici la devise du jour, vie comme si tu devais manger une pizza buitoni demain. Voici le sommaire. Avec le premier tour de la présidentielle, surgit la notion de vote utile. Une sorte de vote pas inutile, quoi. Une stratégie où l'électeur doit parfois renoncer à son premier choix pour assurer le second, qui parfois, pour faire barrage, va à l'encontre de ses propres convictions.
Je m'étais déjà trompé une fois. Il fallait aller à gauche, puis j'avais été à droite, ou alors l'inverse, j'en sais rien, moi.
En une dizaine de photos, le photographe Guillaume Herbeau nous rappelle ce que fut le printemps 2020, et plus précisément comment la République a vécu cet épisode spectaculaire de nos vies, l'atmosphère qui était la nôtre, et nous, les Français, on est balèzes en atmosphère.
Faut-il être de gauche pour faire rire les gens de gauche et de droite pour faire rire
les gens de droite
et les centristes? Peut-on rire de tous avec tout le monde? L'humour politique est-il partisan?
J'appartiens à un milieu où l'on n'a que très rarement l'occasion de plaisanter.
D'accord. À mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnoux, bonjour.
Bonjour Charline, et à nos côtés, en l'honneur de nos invités, une équipe de chansonniers. Avec, depuis qu'Oldelaf a chanté « Ton visage, il est beaucoup bien » et « Ton corps, il est bien aussi, je vais te aimer Mélanie », elle préfère l'électropunk lusitanien. Bonjour Mélanie Bauer.
Bonjour, je vais vous parler des goguettes, mais les goguettes et les goguettes, et les goguettes qui font des goguettes.
Ah oui,
ça c'est cohérent.
Ça c'est bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est la police du temps de parole qui l'a dit à son propos. Ils disent, ça tourne pas rond dans sa petite tête. Des fois, il a des drôles d'idées, c'est pas de sa faute. Mais quand il s'embête, il faut qu'il fasse des bêtises. Salutations à Francis Blanche. Bonjour Guillaume.
Bonjour Juliette, bonjour à tout le monde. Je continue mon rééquilibrage de temps de parole avec aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai appelé notamment une députée de la France Insoumise.
Si Jean-Luc Mélenchon est pour le second tour, par faute à Guillaume
Meurice. Ça va retomber dessus encore, cette histoire.
Merde, votre temps de parole.
C'est foutu maintenant.
À tout décompter de tout de...
Moi, je suis assimilé belge, moi, je vote pas ici.
Sur l'écran noir de ces nuits blanches, non seulement il se fait son cinéma, mais à un tarif défiant toute concurrence, il nous en fait le récit. Merci d'avance, Léo Carman.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
De quoi vous allez nous raconter?
Eh bien, on va parler légumes et stop motion aujourd'hui.
C'est intriguant.
Mystère.
Et voici ceux qui vont donner le la de l'actualité. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Les goguettes en trio.
En trio, mais à 4. Oh,
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnoux.
par Jupiter.
Bienvenue Clémence, Stan et Valentin. On embrasse Aurélien.
On embrasse.
Et voilà, car vous êtes quatre, mais vous êtes un trio à quatre. Et trois dans ce studio aujourd'hui. Votre spectacle tourne dans toute la France et s'intitule Globalement d'accord. Votre dernier album s'intitule Le temps béni de la pandémie. Et en effet, quel temps béni, car vous faites très bientôt vos 10 ans de carrière. Et il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, je dirais, une chanson a donné un tournant à votre carrière. On va écouter un extrait pour vous la remettre en tête.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures. Pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien.
Eh oui, les goguettes avec Clémence au piano, premier prix de conservatoire. Carrément, mais bien sûr. Alors, les goguettes en trio, mais à quatre, globalement, d'accord. Ça veut dire, c'est le titre de votre spectacle dans toute la France. Est-ce que vous avez vraiment cherché à dépolitiser un petit peu, à aller plus vers la société pour fédérer davantage, ou est-ce que c'est une vaste blague,
Valentin? C'était le projet de départ. Après, est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était l'idée de dire qu'aujourd'hui, c'était compliqué de faire de l'humour politique sans fâcher quelqu'un quelque part au moment où on le fait. Et donc, on allait essayer de lisser un petit peu notre discours, nos goguettes, pour essayer de plaire à tout le monde. Donc, voilà, on a essayé de viser les sujets les plus consensuels. Donc, on s'est concentré sur le fromage, la nourriture asiatique, vraiment, voilà. Ça se passe pas si bien que prévu et tout le monde repart vénère.
Vous recevez des tomates quand même parfois ou
non, des escarole.
C'est-à-dire qu'on nous disait oui, plus ça va aller, plus vous allez devenir consensuel, etc. Donc on s'est un peu marré en faisant.
Vous avez pris les devants pour rigoler.
C'est ça,
oui, bien sûr. Les goguettes, c'est pas par hasard que vous appelez comme ça. Vous êtes chansonnier et chansonnière, donc il y a une étymologie du mot, il y a une explication évidemment. Les goguettes, c'est un mot qui est tombé un peu en désuétude, mais que vous avez remis au goût du jour.
Ouais, alors peut-être que Bélanie en parlera tout à l'heure, je sais pas, mais en fait la goguette, c'était une tradition chansonnière qui remonte au 19e siècle et c'est à la fois un genre, c'est on chante une goguette mais on allait aussi à la goguette. C'était des endroits où les gens se réunissaient pour chanter sur en changeant les paroles de chansons connues. Comme ça, il n'y a pas besoin de connaître bien la musique. Et c'est un exercice qui existe toujours à Paris, qui a lieu tous les lundis soirs, avant au Limonaire et maintenant sur une péniche chez l'Alamein. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc c'est une scène ouverte où plein de gens viennent chanter des goguettes.
Mmh. Alors toujours étymologiquement, en goguette, c'est être en léger état d'ivresse, d'après le Littré. Et chanter goguette à quelqu'un, c'est lui dire des choses offensantes. Est-ce que vous essayez de vous balader entre les deux, c'est-à-dire le sens de la fête et...
Et se moquer des gens en étant bourré, quoi.
Ou faire en sorte que les gens aient un sentiment d'ivresse par la qualité de vos chansons et en profiter pour mettre 2-3 taquets au passage.
Bah oui, en tout cas, c'est vraiment le sens premier de la goguette, où en tout cas les gens se retrouvent vraiment pour se donner une sorte d'exutoire politique et social à travers la chanson. Et donc on essaye de retranscrire ça dans notre spectacle. Après, est-ce que les gens ressortent avec une ivresse particulière? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils nous disent souvent que ça leur fait du bien, que c'est une sorte d'antidote à l'amorosité pour eux. Voilà, toutes sortes de compliments de ce genre qui font toujours plaisir, quoi.
Bien, alors moi je suis très contente que Clémence soit à la table, parce qu'en faisant une petite recherche sur les chansonniers depuis plus d'un siècle, en fait il y a très 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 peu de chansonnières. Mmh. Vous l'expliquez comment ? Il y a beaucoup de chanteuses, par exemple, il y a un siècle et demi, il y avait les chanteuses réalistes, il y avait Fréhel, qui étaient toujours des femmes qui racontaient des choses du domaine sentimental. Mais dès qu'il s'agissait de parler de politique, de ce qui se passait ou d'économie, pas de femmes.
Ouais, je pense qu'il y a...
Ça pas
dès lors
changé.
Qu'on parle de l'espace public, il y a moins de femmes. Enfin, c'est...
Oui, la goguette, vous disiez, c'est né au 19e siècle. Le 19e siècle est un sale siècle pour les femmes. Elles ne pouvaient déjà pas rigoler en public et montrer leurs dents. Donc devenir chansonnière, c'était chaud.
Alors il y avait des goguetières. Apparemment, il y avait des goguetières ou des goguettes qui étaient réservées aux femmes, mais je ne pense pas beaucoup. Et puis il y avait aussi des goguettes où c'était interdit aux femmes.
Très populaire quand même. Hein. C'était très populaire. Ouais. C'était pour le coup moins bourgeois. Donc les femmes s'expriment dans les milieux populaires un peu plus.
Ouais. Mm-hmm. Ouais.
La femme fameuse poissonnière.
Bah oui. Sans doute qu'elle le faisait, mais qu'on n'était pas au courant, elle faisait ça entre elles. Évidemment, le principe, c'est de la parodie. La parodie, ça signifie qu'il y a quelque chose de préexistant avant. C'est-à-dire qu'on adapte quelque chose de premier degré qui existe, donc une chanson. Là, c'est qui entre en jeu, là? Est-ce que Clémence, vous au piano, vous dites oui, ça c'est faisable, c'est possible. Parfois, il y a des chansons qui sont pas adaptables en parodie. Comment les garçons interviennent dans tout ça, dans le côté musical?
Ben, je pense que c'est jamais arrivé qu'on fasse pas une chanson. On s'est toujours débrouillé pour que ça marche. Alors après, c'est très transposé, enfin c'est très changé. Quand c'est juste piano, évidemment.
C'est-à-dire que tout est transposable.
On n'a pas encore trouvé de limite, en tout cas.
En tout cas, ça nous est pareil. Alors ouais. Si, il y a quand même la chanson que chante Aurélien en spectacle qui s'appelle Le Pangolin sur l'air du Yuki de Gottener. Là, on a repris une bande son. Enfin, on a fait un arrangement, mais qui est pas en live. Quoi,
avec parce un costume, hein, faut préciser.
Ah oui, il y a tout un budget costume. C'est un spectacle total. Il y a des gens déguisés en pangolin.
C'était très important.
Les goguettes en trio, mais à quatre. Je rappelle que Stan est aussi dans ce studio. Vous êtes mis un peu à l'écart, mais s'ils disent une connerie. Criez très fort, Stan. Oui, approchez-vous.
C'est-à-dire qu'il y a deux micros pour trois. On voit qu'on est bien sur le service public.
Un peu ça. N'hésitez pas à vous lever et à venir prendre le crachoir, bien sûr. Vous êtes en tournée, les goguettes, par exemple, le 7 avril à Grand-Villard, le lendemain à Saint-Chamond et le 10 avril à Bourg-en-Bresse. Je donnerai quelques dates. Votre tournée s'appelle Globalement D'accord. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h et vous nous offrirez un live tout à l'heure. En attendant, Arthur H. Lui aussi, il propose la plus triste des chansons, mais vous allez écouter, ça ne l'est pas tellement, je vous promets.
À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amer et meurtri. C'est triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute, oh, oh, il chante la plus triste des chansons de ce triste monde. Amis désenchantés qui connaissaient le prix de la mère vérité, venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde, de ce triste monde. La 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 la. La plus triste des chansons de ce triste monde. Laisse-la sortir, oh, laisse-la prier. La plus triste des chansons de ce triste monde.
Arthur H sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter avec les goguettes en trio, mais à quatre, mais à trois dans ce studio. Stan, Clémence et Valentin sont là, on embrasse Aurélien. Juliette, pour entourer nos goguettes.
Bah, ils sont trois également et ils ne sont pas tristes du tout. Mélanie Bauer, Léo Carman et bon, bah, un petit peu plus pathétique, Guillaume Meurice.
Pour un journal joyeux.
Mes chères Françaises et mes chers Français,
voici qu'approche l'heure de votre décision.
Le journal de presque 17h17.
Nous sommes deux candidats,
à égalité. Décidément, vous êtes fâchés avec les chiffres.
Et on commence par les titres.
Les électeurs positifs au Covid pourront voter à la présidentielle.
Bonne nouvelle pour Anne Hidalgo, les électeurs qui ont perdu le goût pourront donc voter. C'est pas mal.
On parlera de la campagne de Zemmour également.
Oui, elle pue un peu, mais les électeurs qui ont perdu l'odorat pourront donc voter. Ouais, c'est
très bien. Quant à la campagne de Pécresse, elle a repris son cours.
En espérant que les électeurs qui ont perdu la vie puissent voter.
Sinon, elle ne sera pas élue. Hein. Bah oui, ouais.
Et on commence donc par la politique.
Oui, hier, le gouvernement a voulu s'expliquer sur l'affaire McKinsey, les soupçons de favoritisme et de conflit d'intérêts, en organisant une conférence de presse du ministre délégué des comptes publics, Olivier Dussopt.
Non, alors, non. Il doit y avoir une erreur, Charline.
Ah, non, c'est bien ça.
Non, oui. non je pense quoi pas, parce qu'Olivier ouais. Dussopt, il fait l'objet d'une enquête pour corruption et prise illégale d'intérêts, donc il l'aurait pas envoyé lui, ça aurait été complètement con.
Bah si, en fait, si.
Ouais. Attendez, ils en ont pas à ce point rien à foutre, quand même.
Si, on n'est pas à l'abri d'une enquête sur le QI moyen des Français, commentée par Malène Schiappa.
Quelle époque.
Dans l'Express, on apprend que le patron du Figaro Vox est chroniqueur dans la matinale de France Inter, Alexandre Devecchio, a fait une soirée karaoké chez Marine Le Pen.
Ah bah dis donc,
oui,
France Inter, les racistes, on les aime, on vous les chante.
C'est mon collègue le mercredi, c'est fou ça.
On l'embrasse.
Oui.
Non, pas forcément.
Présidentielle toujours, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais banalisé le Front National ».
Et oui, coup de couteau dans les tentes de réfugiés, refus du pavillon français au bateau de SOS Méditerranée, flashball pour les manifestants, il n'a pas banalisé puisqu'il l'a appliqué en fait directement le programme.
Eh ben oui, c'est la gadelmalisation de la politique.
Oui, tout à fait, présidentielle toujours.
Pour attirer le vote des jeunes, les équipes d'Emmanuel Macron misent sur le jeu Minecraft.
Minecraft, donc c'est pour les jeunes de 2008 plutôt à ce moment-là. Hein.
Oui, voilà, à bientôt sur Mario Bros et Tetris.
Voilà.
Et Pac-Man.
Oui,
ça c'est pour le
Sonic,
plus moderne. Voilà.
Et le casse-brique, on peut en faire plein comme ça.
Et les mots croisés.
Présidentielle insolite à présent.
Oh là là, dis donc. Oui, parce qu'en Ardèche, deux militants d'Éric Zemmour ont été évincés en raison de leur activité pornographique.
Eh oui, ils auraient dû appliquer le fameux dicton « no zob in zob ». Et du coup, ben voilà.
Non, moi, je vois pas de quoi vous parlez.
Une animatrice de France Inter.
Ça me dirait. L'actuel directeur de cabinet de l'Élysée, Patrick Stroda, ne fera pas un autre mandat et va créer sa propre société de conseil.
Oh non, pas Patrick! Mais non, mais pas maintenant, Patrick, pas après tout ce que t'as fait. Nous laisse pas tomber, Patrick.
Oh là là.
Pourquoi il part maintenant, Patrick?
Mais Guillaume.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Vous savez qui c'est? Je veux dire, vous en aviez déjà entendu parler avant aujourd'hui, je veux dire.
Non, mais ça avait l'air important pour vous.
C'est vrai que j'ai mis un petit peu d'entrain, c'est vrai. Et je sais pas du tout qui c'est non plus.
Non,
je
mais on l'embrasse.
Moi, je le vois là.
Bah non, on l'embrasse pas. Non, on fait signe qu'on l'embrasse pas non plus.
Invité sur Europe 1, Xavier Bertrand a déclaré, je cite, « Le mépris envers les classes moyennes peut être un facteur d'explosion dans notre pays. »
Oh, le type est à deux doigts d'inventer les gilets jaunes, dis-nous. Ouais.
Bébert Le Flair, comme on l'appelle.
Xavier Elisabeth Tessier
aussi, en effet. En un an, la préfecture de police de Paris a enregistré 4000 disparitions inquiétantes dans la capitale et dans la petite couronne.
Alors, 4000 selon la police, 4 millions d'électeurs en moins, selon Anne Hidalgo. C'est l'autre estimation.
Hier, BFM TV a réalisé un reportage sur les Français qui se ruent sur les agences matrimoniales pour accueillir des femmes ukrainiennes.
Ah, ça c'est la France qu'on aime, ça. Ça c'est les résistants. Tu vas faire quoi, Poutine? Oh, Poutine, alors. Prendre Mariupol peut-être, mais t'auras pas les femmes de Mariupol.
Oui, cœur avec le patriarcat.
Voilà. Selon le site Music Business Worldwide, la plateforme Spotify serait inondée de faux artistes.
Ah oui, je confirme, oui.
Ah bon?
Ah oui, parce que l'autre fois, je suis tombée sur un programme Meurice Recrute. Et on voit clairement que c'est un faux artiste qui se fait passer pour vous, dites donc.
Mais non, c'est moi, Charline, c'est vraiment moi.
Ah oui. Ah zut, on enchaîne alors.
Oui, c'est mieux.
Bruce Willis a annoncé qu'il arrêtait sa carrière car il souffre d'aphasie. C'est une perte partielle ou complète de la capacité à s'exprimer.
Ah, donc quelqu'un arrête sa carrière car il n'arrive pas à prononcer bien les mots.
Bah, attendez. Ouais, pourquoi vous me regardez comme ça, là?
Charline? Ouais. Dites 88 qu'on voit.
98.
Allez, fin de carrière. Franchement, je vous la cœur. Merci beaucoup.
Je le savais. Merci. Guillaume Meurice, les Goguettes en trio, mais à 4, mais à 3 dans ce studio, sont avec nous avant de nous offrir un live. On va aborder ce premier thème. Car en France, il arrive que l'électeur mette en place une stratégie, celle du vote utile. également appelé vote efficace, quand il faut anticiper le coup d'après, le second tour. Trois candidats encouragent ce vote utile qui peut leur être favorable, Le Pen, Macron et Mélenchon. Le vote utile, efficace, serait-il donc guidé par les sondages, les favoris et une issue que l'on devine ?
Vous comme moi, on sait très bien que la droite va repasser. Et ça, ça c'est bon pour nous, hein ? Ah bah, bouclier fiscal, moins de taxes, assouplissement du code du travail. C'est le moment, monsieur Boulet. Hein. Et parce que moi, je suis là. Moi, je vous suis.
Et moi, je vous emmerde.
Mais enfin, monsieur Boulet.
C'est à cause de gens comme vous que les jeunes ne vont pas voter. Allez bien vous faire foutre, monsieur Poulain.
Monsieur Boulet, on s'est mal compris. La gauche, la droite, c'est pareil, non ?
Fais pas ci, fais pas ça. Extrait de la série de France 2, bien sûr. Alors vous, les goguettes, quel sens vous donneriez à cette expression « vote utile » Parce que là, elle peut avoir plusieurs sens. Vous qui aimez les mots et les parodies « vote utile », est-ce que ça vous inspire quelque chose ?
Bah, le vote utile, je sais pas trop. C'est vrai que nous, on est plutôt du genre à avoir un vote de conviction, je dirais. C'est qu'on on va pas trop se dévoiler hein, politiquement.
Non, ne dis pas, parce qu'après... On peut dire qu'on a été les premiers...
Voire les seuls peut-être à soutenir la candidature de Guillaume Meurice et à monter un comité de soutien, on y croyait très fort.
C'est vrai.
Bon, grosse déception.
Ça a failli marcher, non ? On n'est pas passé loin.
Mais du coup, c'est vrai que là, on est un peu blasé, quoi. Vu l'affiche au premier tour, on ne saurait pas trop quelle utilité donner au vote. Quoi.
Mais ça vous est déjà arrivé de réfléchir à une stratégie en fonction des deux tours ? Alors moi, je dis ça avec beaucoup de recul. Hein. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je n'ai jamais compris comment c'était possible en tant que Belge. Mais est-ce que vous avez déjà élaboré des stratégies
On en fait forcément, parce qu'en plus, on n'entend parler que de ça. Donc évidemment, on se pose des questions.
Ça effleure quand même.
Ouais. Bah ouais.
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 Mais après, une fois qu'on est dans l'isoloir, est-ce qu'on ne met pas toutes ces stratégies ? Est-ce que ce n'est pas la conviction qui est tentée de prendre le dessus ? Comment ça se passe ?
Le vote caché, là, comme dit Zemmour, parce qu'il y a aussi le vote caché. Zemmour compte beaucoup sur ce vote fantôme. Donc il y a plein de types de votes maintenant qui existent.
Vote de contestation aussi.
Vote de contestation.
Si ça vous est déjà arrivé lors d'autres élections régionales.
Non, nous on est d'accord, hein, de toute façon, donc on conteste peu. Hein.
Stan, vous qui êtes à l'écart sans micro, pouvez-vous rapprocher si vous avez une expérience.
Vous qui soutenez Nicolas Dupont-Aignan, vous pouvez nous expliquer pourquoi.
On est en déficit de soutien pour Dupont-Aignan.
J'ai regretté l'absence de vote utile en 2002 au premier tour, mais sinon.
Alors, c'est cryptique, moi je ne l'ai pas. Je veux bien être éclairée.
Est-ce que, globalement, vous vous sentez confortable lors de cette élection ?
Alors, pas trop. En tant que chansonnier, en tout cas, c'est un peu compliqué parce que cette élection est un peu bizarre par le touchement de l'actualité, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine, avec le Covid, etc. C'est vrai que c'est une élection un peu chiante.
C'est difficile de s'en emparer.
Par rapport à 2017, où il se passait plein de trucs. Toutes les deux semaines, il y avait un rebondissement, il y avait un truc. Juppé qui perd face à Fillon, Hollande qui se représente pas.
Fillon nous manque.
Énormément. Un truc comme... Là, on a le scandale McKinsey qui arrive, et puis tout le monde s'en fout un peu. Ça fait pchit. Alors qu'il y a 5 ans, on se serait sans doute bien amusé avec ça. Mais sinon, on arrive quand même à trouver des trucs rigolos.
Ouais, et puis c'est quand même pas une élection très réjouissante.
En plus, politiquement.
Effectivement. On va pas rester sur cette note. On va prendre un petit mi bémol, mais je vais le confier à Mélanie Bauer, qui est
gentil,
charme aventuré là-dedans. Hein, Mélanie, on vous écoute.
Ouais, et ça fait penser aux fumeurs de joint qui disent nous, on fume utile. Mais bon, je ne sais pas. Alors, les goguettes, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord une solide culture classique. Hein. Clémence Monnier, vous êtes claveciniste.
Tout à fait.
Claveciniste, pianiste et docteur en musicologie, selon les internets, avec Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander. Ils se rencontrent au Limonaire à Paris en 2013. Alors le Limonaire, c'était une scène mythique pour les amoureux de la chanson, dans la cité bergère, un peu cachée, mais pas trop, avec notamment donc le lundi soir, la goguette des énervés, une sorte de version amateur, open mic des goguettes, des fanfans la tulipe d'hier. Et d'aujourd'hui, un vivier de Frédéric Fromet, en somme. Mais revenons donc à
nos Frédéric Fromet.
Bref, revenons à nos mousquetaires de la chanson qui poursuivent donc la tradition de la dextérité de la plume pamphlet en créant autour d'eux une nouvelle commune de dangereux anarchistes. Avec ça,
on cherchait un candidat d'enfer. Un genre de Jaurès, mais en moins vieux.
Qui sauverait la France de la misère et de Brice Hortefeux.
Pour une république exemplaire, qui défendrait les veuves et les gueux.
Jean-Michel Blanquer, plus sage que la haute.
Faites-lui un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs.
Voici venue une nouvelle ère, Meurice 2022.
Quel opportuniste, ce Meurice, qu'elle entre soi cette émission. Manquerait plus que le canard enchaîné, une vieille gauchiste pour la musique, et voilà, ce serait un nid. Clara Dupont-Mono, priez pour nous. Bref, les Goguettes, c'est un gros succès du confinement. Ils ont d'ailleurs fait un medley de leurs chansons confinées sur YouTube pour les nostalgiques, hein, de leur fameux Vesoul, leur vidéo bricolo rigolo. Et puis maintenant, nous sommes démasqués et donc nous sommes de retour au spectacle avec des critiques qui utilisent beaucoup le mot jubilatoire, hein, toujours signe de joie, car le Goguetier est épicurien, il aime jubiler, la fête, la bonne bouffe, le spectacle vivant et les rencontres intergénérationnelles, les rencontres interclasses sociales, la France Inter quoi.
Il y a de la bamboche dans l'air, un Mediapart, l'atmosphère. Ce matin n'est pas ordinaire, il y a une ambiance du tonnerre. Tout le monde se promène souriant, pépère. Il n'y a pas moyen de se défaire cette bonne humeur passagère. Et pourquoi c'est un mystère?
Bah ouais, manquait plus que Mediapart dans cette histoire. Bon, les Goguettes sont donc des salles combles dès la rentrée 2021, puis un Olympia en avril, si j'ai bien suivi. Les Goguettes, c'est ce petit souffle d'espoir qui souffle justement dans l'esprit des Françaises habillées de rouge et de noir, avec, si j'en crois mes sources, un inédit en live.
Oh, mais
pour
non
nous maintenant, mais ouais, ouais, ouais.
Pour Par Jupiter.
Tant qu'on ouais s'appelle encore Par Jupiter.
Ah ouais, super. Allez les Goguettes en live.
Vous n'allez pas être dépaysés sur la musique.
Oui. Vous allez voir comme on est très originaux quand il s'agit de choisir un air. Il y a des gauchos dans l'air, des barbus en pull au vert,
Lionel Jospin en poster. On se croirait en enfer.
C'est bourré de fonctionnaires pépères, de syndiqués réfractaires. Ça sent les chips et la bière.
On est bien à France Inter.
Maman, j'ai si peur de me faire endoctriner par le lobby LGBT.
Et tout ça avec nos impôts, quel culot.
Vous devriez faire preuve de neutralité. Prenez exemple sur Bolloré.
Oui, le service public, c'est pas de faire l'article du wokisme.
Bolchevi, il y a des gauchos dans l'air, surtout à Part Jupiter.
Cette émission est un repère d'islamo-communautaire.
Qu'est-ce qu'on fait dans cette galère, misère? C'est pas bon pour notre carrière. On vient de se griller, c'est clair, pour un dimanche chez Drucker.
Meurice, quel donneur de leçons. Ces micro-trottoirs, c'est du bidon.
Frédéric Fromet, quel mépris pour Jésus-Christ.
Visorek, Van Ennecker, c'est pas des Français typiques. Faudrait les renvoyer en Belgique.
Ce petit pays qu'on a battu en demi, Oumtiti.
Il y a des gauchos dans l'air, mais parmi ces loups sanguinaires,
il y a une brebis solitaire. C'est Dominique, ce mon frère.
Souvent je fais un cauchemar bizarre. Je suis devant Augustin Trapenard. Il me pose une question chelou.
Que signifie l'art pour vous?
Bravo, merci pour cette chanson inédite, les goguettes en trio, mais à quatre, mais à trois dans ce studio, Stan, Clémence, Valentin et Aurélien, pas loin bien sûr, merci, et merci à la technique, à Pierre-Yves de Rolin et Rémi Sistiaga bien sûr, votre spectacle globalement d'accord est en tournée partout en France, le 18 avril vous serez à La Cigale et le 19 au Folies Bergères.
Ça c'est ça. En 2023.
Ah oui, c'est en 2023, ouais. C'est pour vos 10 ans.
Mais c'est vrai.
Mais vous pouvez déjà réserver.
Ah, complètement, c'est tout à fait possible. Ouais,
ouais. Sinon, il y a le 8 mai à Lille, le 18 mai à Colmar, notamment. Je donnerai encore d'autres dates, bien sûr. Les goguettes avec nous et Guillaume Meurice aussi.
Désolé.
Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé.
Ben, je poursuis mon rééquilibrage du temps de parole des candidats avec un gros morceau aujourd'hui. Attention, hein. Jean-Luc Mélenchon. Alors, je préviens les modérateurs, on va peut-être recevoir des mails, va peut-être falloir embaucher. C'est là qu'il est fort, Mélenchon, il crée de l'emploi avant même d'être élu. Alors, les mails, je dis bien des mails parce que ça va venir de tous les côtés. Si je dis du bien, les sociaux-démocrates qui nous écoutent avec leur t-shirt, vous savez, Thomas Legrand Forever, ils vont me pourrir la gueule. Et si je dis du mal, en ce moment, le mélenchoniste est bien vénère, il est prosélyte. Hein. D'ailleurs, il n'y a rien qui te donne moins envie de voter Mélenchon qu'un militant de Mélenchon qui te parle à 8 cm du visage, comme ça. Hein, Jean-Luc, c'est le meilleur ! Calme-toi. Alors, comme j'ai expliqué hier, je dois donner 1 minute 20 de temps de parole à chaque candidature. Donc ça peut être des soutiens officiels, des militants, des gens de son camp politique, ou même des extraits de Jean-Luc Mélenchon lui-même, par exemple.
Bonsoir tout le monde ! Et je suis un cassier, gros ! Et je suis un cassier,
non.
Ah, je me suis fait niquer. Oh, le tenez, ce mec. Le tenez, il était portable. Ah oh, bon.
Non, alors attendez, oh là là. Non, je crois que c'est pas Jean-Luc ça. Non, c'est pas Jean-Luc. Ça, c'est les techniciens de France Inter. Ils roulent pour Poutou. Alors forcément, ils font du sabotage. Ça, c'est un extrait de Bengus, hein, qui est un supporter marseillais, qui a le même tempérament que Mélenchon, qui lui est élu à Marseille. Mélenchon, je le rappelle, mais qui n'est pas marseillais, c'est juste qu'il adore le parachute. Allez, hop, 20 mails dans la gueule. Allez, je suis allé sur le terrain voir des militants et des soutiens. On y va, dont un qui vient du sud d'ailleurs.
Ah oui, Marseille, oui. Oui, très bien, mais comment dirais-je.
Comment vous êtes originaire de Marseille?
Château-Gombert.
Château-Gombert, ouais. C'est à côté de Marseille.
Le Neuilly de Marseille. Je me rappelle quand j'avais voté pour Pompidou.
Ah, vous avez voté pour Pompidou?
J'ai quand même 72 ans.
Ah, attendez, vous êtes passé de Pompidou à Mélenchon.
Ouais.
Ça, c'est l'ouverture. Ça s'appelle l'ouverture. Finkielkraut, il est bien passé de Mao à Robert Ménard. Donc, on a bien le droit de passer de Pompidou à Mélenchon. Ils ont dû se croiser, d'ailleurs, sur la route. Ah, t'es là, coucou. Bon, alors ça compte hein, pour mon équilibrage de temps de parole. On continue avec une dame qui a...
Toujours voté pour lui. Cette fois-ci, je voterai pour lui.
Quel est son principal défaut, vous diriez?
Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. J'aime beaucoup son lyrisme, sa culture.
Voilà. Il n'a pas de défaut, Jean-Luc?
Non.
J'en vois pas non plus. Je n'en vois absolument pas. C'est pas simple de trouver un défaut à Mélenchon, en tout cas pour les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, sans risquer l'excommunication, bien évidemment. Et bam, 20 mails en plus dans la musette. Allez, on continue.
C'est le seul tribun qui existe en France.
Ouais.
Oui. Quelqu'un qui parle français.
Et alors, si on devait retenir un défaut?
Ouais, il est fou.
Alors, non, voilà. Non, sinon je donne directement l'adresse mail de ce monsieur. Vous voyez directement avec lui, là, ça va devenir compliqué. Alors bon, c'est un petit peu le bordel. On va monter d'un cran. J'ai posé la même question à Caroline Fiat. Elle est députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle.
Je pense que son principal défaut, c'est qu'il ne pratique pas la langue de bois.
Est-ce que c'est pas un peu une qualité déguisée, ça?
Pas en politique. Lui reste humain.
Donc son principal défaut, c'est qu'il est humain.
Oui, parce qu'en politique, c'est pas super bien vu.
Trop humain. Allez, on va dire trop humain, trop sanguin. C'est vrai que sur l'échelle qui va de 1 à 10 de la propension à partir en toupie, 1 étant un caillou et 10 étant Juliette Arnault, il est à 8,5. Hein. J'ai regardé, 8,5, c'est un humain. Alors attention, on va encore monter d'un cran, parce que je vous signale que Sarkozy ne s'est toujours pas déclaré ni pour Pécresse ni pour Macron. Et vous savez pourquoi? Eh ben, je vais vous le dire, moi je le sais, il m'a laissé un message, certainement de sa cellule de garde à vue, parce que ça résonne un peu.
C'est vrai que j'ai longtemps hésité pour mes soutiens. Après mes réflexions, c'est en responsabilité que je me suis dit que la meilleure solution, c'est encore de soutenir Mélenchon. Mélenchon, c'est l'assurance d'avoir un vrai débat dans le deuxième tour. Et ça, rien que pour le spectacle, je lui apporte mon soutien.
Ah.
Allez, Ça va le faire.
Ça calme ça ou pas? Alors là, l'idée, c'était vraiment de mettre le CSA en PLS. Parce qu'il s'agit en fait d'Hugo Bernalicis, qui est député La France Insoumise et qui faisait une imitation de Sarkozy. Bah donc, démerdez-vous avec ça. Ouais, je ne sais pas comment compter le temps de parole. Et voilà. Alors, le CSA est en PLS. L'extrême droite peut être en PLS si Mélenchon est au second tour. Alors, peut-être que l'électeur de gauche doit se bouger pour se mobiliser. Peut-être. Moi, je ne sais pas, je suis neutre. Ah, j'ai toujours été neutre, j'ai toujours été impartial dans cette chronique. Mais quand j'écoute Bengus, parfois, j'ai l'impression qu'il est de gauche et qu'il parle aux électeurs de gauche qui en ont marre de perdre.
Posez-vous les bonnes questions, parce que vous allez sauter, vous allez. J'ai compris, parce qu'on en a plein les couilles, là. J'entends, frère. J'ai pas su m'entendre. Plein les couilles. J'ai compris.
Voilà. Et ben, pour savoir si l'électeur de gauche a compris, réponse le 10 avril.
Merci, Guillaume Meurice. Ça se passe bien, cet équilibrage, j'ai l'impression.
Là, c'est 1 minute 20 pile. Hein,
demande si vous devriez pas intégrer le 7-9, la matinale de France Inter. Pour l'équilibre, ça me semble.
Je suis au point de cul, là. Je reçois les comptes tous les jours. Je rigole pas avec ça.
Merci Guillaume de vous poursuivre la semaine prochaine.
Ah bah là, il m'en reste obligé. 7. Hein.
Ouais, effectivement. Juliette Arnault, je vous laisse. Les goguettes entre vos mains.
Dans le magazine 21, un photojournaliste, Guillaume Herbault, privé de voyage pour cause de confinement, hein, comme nous tous, a observé et shooté la République française, ses institutions, ses monuments, ses citoyens pendant cette période si particulière. Y a-t-il moyen artistique plus apte à rendre la vérité qu'une photo? Toutes les vérités, pas toutes les photos.
Peu d'usagers pensent à immortaliser sur pellicule les grands moments de leur trajet vers leur destination de villégiature. C'est pourquoi la brigade a installé sur le bord de la chaussée des appareils automatiques de prise de vue tels que celui-ci.
Des 120 km/h sur autoroute et 50 en agglomération, profitez de notre service photo exclusif. Un service professionnel et rapide, un matériel de pointe qui répondra au mieux à vos désidératos. Photos individuelles, en famille ou entre amis, vous pouvez obtenir vos clichés et agrandissements grâce à votre bon de commande personnalisé. Des moments inoubliables, un service proche de vous, bref, des souvenirs pour la vie. Bonne route.
Cette semaine, 140 km/h pour 3999 francs seulement. Profitez-en.
C'était un extrait du programme court de la télévision belge Faux Contact avec Manu Taureau. Ah. Alors, ces photos de Guillaume Herbault, eh ben, quand on les regarde, on est aussi entre le sourire, quand on voit un vétéran qui fait le poirier sur le perron de l'Élysée, quand on voit un sénateur dont l'arrière de la coque de téléphone est un portrait du général de Gaulle, de l'amertume aussi avec les fils de gens qui voient une distribution de nourriture, une étudiante qui a reçu son premier colis, le saugrenu avec le SDF qui semble avoir pour lui tout seul dans le jardin des Tuileries, la patrouille de France, et la mauvaise herbe en liberté, place de la Concorde. Est-ce que finalement, ce confinement, c'était pas un grand moment créatif?
Certainement, à plein d'aspects, c'était certainement un grand moment créatif, un grand moment aussi un peu de désespoir et qui perdure aussi pour plein d'autres gens. Enfin, c'est vrai que cette fille, la Laura, qui se retrouve à perdre son boulot et aller au secours alimentaire parce que sa mère aussi a perdu son boulot en tant qu'intermittente, on peut pas dire que ce soit un grand moment de créativité joyeuse, mais pour nous, c'est vrai que nous, on en a profité pour faire quelques chansons qui nous ont un petit peu aidés dans notre carrière.
Il y en a une, plus de 5 millions de vues.
Ouais. On n'avait jamais fait ça. On n'a jamais été aussi connus que quand on jouait pas. Je sais pas comment on doit le prendre, mais.
Qui profite le crime? Ouais,
c'est c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes devenu célèbre, viraux même, au moment du confinement? Est-ce que vous seriez pas ce qu'on appelle des profiteurs de guerre?
Je laisse Clément répondre.
C'est vraiment une question au premier degré.
Je sais pas.
Non, mais vous y avez songé, vous vous êtes dit, c'est quand même bizarre ces moments terribles où. C'est une contrainte.
Est-ce qu'on était mal à l'aise par rapport à ça?
Non, pas mal à l'aise, mais que ça vous ait traversé l'esprit. Vous n'avez fait jamais que saisir une contrainte. Au contraire, ça, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là.
Mais surtout, nous, c'était pas du tout. On s'attendait absolument pas à ça. Et on n'est pas les seuls. Je pense qu'il y a plein de gens, comme à ce moment-là, tout le monde était connecté, tout le monde était sur WhatsApp. Il n'y a pas que nous, en tant qu'artistes, qui avons fait le buzz. C'était un moment un peu propice. Et nous, ça nous est tombé dessus comme ça. Sans que ça change tellement nos vies, parce qu'on était confinés. Donc finalement, on devenait connus, mais chez nous.
Oui, c'est ça.
Donc ça ne changeait rien au quotidien.
Est-ce que ça a aidé à l'acceptabilité de l'enfermement? D'en rire?
Ah, c'est vrai que ça nous a quand même stimulés. C'était.
Ouais, c'était chouette. Enfin,
c'était chouette, quoi, qu'en plus, ça nous a stimulés pour en faire d'autres. Donc, on n'a pas rien fait, quoi.
Bah, c'est marrant parce que c'est exactement la même démarche que le photographe. C'est-à-dire, il est pris d'habitude, il voyage, il va couvrir des terrains de guerre, à l'international. Et là, il était obligé d'être à Paris, là où il était, où il logeait. Quelle est la photo, enfin, quelles sont les photos ou la photo qui vous a le plus marqué dans cette série?
Bah, on en parlait, c'est celle de cette fille qui revient chez elle, dont la mère est intermittente et qui est seule à sa table. Et,
avec sa ration
et qui a
de qui est au secours alimentaire pour la première fois. Et qui est,
c'est une très jeune fille.
Très jeune fille, donc elle a perdu son boulot. On apprend par la légende de la photo qu'elle a retrouvé du boulot après, donc on imagine et on espère que son quotidien s'est un peu amélioré. Et ça nous a touché aussi parce qu'elle est donc fille d'intermittente qui a dû perdre son intermittence du spectacle à la faveur de ce confinement et de cette crise. Donc c'est vrai que nous, artistes, on a plutôt gagné en visibilité à ce moment-là. Et voilà, mais ça a été aussi pas du tout le cas pour plein d'autres artistes et plein d'autres intermittents et intermittentes qui ont se retrouvé du coup à avoir des débouchés qui s'assombrissaient, voire qui se bloquaient complètement. Donc on a une petite pensée.
Des photos à voir dans la revue 21, donc Juliette. Léo Carman est avec nous pour parler cinéma.
Mais oui. La consécration surprise dimanche soir aux Oscars de Coda, remake du film français La Famille Bélier, a donné le ton. En ces temps troublés par la violence guerrière et sociale, on a envie de valoriser le cinéma refuge, où l'on se réunit pour s'apaiser à travers des histoires universelles prenant la douceur, l'empathie, la résilience. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est d'un petit bijou de tendresse dont j'avais envie de vous parler. 1h10 d'émotion pure, nommé lui aussi aux Oscars en 2017 et lauréat du César du meilleur film d'animation cette même année. Ça s'appelle Ma vie de courgette, c'est écrit par Céline Sciamma et réalisé par Claude Barras.
On adore.
Génial.
Les cheveux bleus et les grands yeux humides, le petit Courgette vit seul dans un appartement vétuste avec sa mère alcoolique, dont il empile les canettes de bière vides pour construire une pyramide. L'amour inconditionnel des enfants pour leurs parents provoque parfois des fétichismes étonnants. Ces canettes sont peut-être ce qui représente le mieux sa maman et deviendront le seul souvenir qu'il emportera avec lui après qu'un accident le sépare définitivement d'elle.
Elle était gentille avec toi, ta maman ?
Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée et puis des fois on rigolait.
Oui. Et des fois non. Bon, écoute, je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman.
Mais j'ai une maman.
Elle est partie, ta maman, Icare.
Mon nom, c'est Courgette.
Courgette.
C'est au foyer des Fontaines que Courgette est accueillie par 5 autres orphelins au passé aussi divers que douloureux. Des enfants que, comme dirait le petit Simon, chef autoproclamé de la bande, plus personne n'aime. Et si la solitude paralyse un temps le petit Courgette, cette nouvelle famille va vite s'ouvrir à lui et ils vont ensemble réinventer ce qu'on leur a enlevé, un chez-eux. Cet endroit indispensable où l'on se sent en sécurité, libre d'exprimer ses joies comme ses tristesses, d'apprendre et de grandir. Libre, pour Courgette, de ressentir pour la première fois, à l'arrivée de la petite Camille, un sentiment nouveau, l'amour. Ce sentiment que ne peut ressentir l'enfant que quand il se sent lui-même aimé. D'ailleurs, cela lui permet d'expliquer avec maturité ce phénomène étonnant qui amène leurs professeurs et leurs surveillantes à se faire des bisous sur la bouche.
Hé, Juju, regarde. Bah ça s'appelle les préparatifs. Si Rosie, elle était dans un lit avec Monsieur Paul, Rosie, elle transpirait 10 fois plus et Monsieur Paul, il aurait le zizi qui explose.
C'est vrai ou c'est pas vrai, Simon?
Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que c'est vrai.
C'est dégueulasse. Hein.
Mais non, c'est juste qu'il est amoureux. Et il la serre fort parce qu'il a peur qu'elle s'en aille.
Entièrement réalisé en stop motion, cette technique d'animation en volume où l'on donne vie image par image à des objets faits main, Ma vie de courgette atteint une poésie visuelle renversante, sublimée par un montage d'une précision impressionnante qui laisse une place précieuse au silence, au regard mélancolique et fatigué de ces enfants qui s'accrochent à la flamme de leur jeunesse volée. Le scénario est bouleversant d'équilibre, nous faisons jongler d'émotions à chaque scène, sans parler des dialogues, surtout des enfants, d'une justesse saisissante. Et encore, est-ce que je vous ai parlé des voix, de la musique, des décors? Quand le talent est partout, nous ne voyons plus qu'un ensemble, cohérent et percutant, nous ne voyons plus qu'un chef-d'œuvre.
Il a ouvert les yeux. Ah, il veut plus me lâcher.
Comment il s'appelle alors?
Antoine.
C'est joli.
Ouais, Spider-Man, c'était mieux quand même.
Il va vivre ici tout le temps avec nous?
Non.
Sauf si tu l'abandonnes.
Je vais pas l'abandonner.
Même s'il est ultra moche.
Même s'il sent le caca.
Même s'il pleure tout le temps.
Même s'il fait pipi au lit.
Même s'il est nul à l'école.
Même s'il est bête.
Même s'il mange comme un cochon.
Et oui, même si tout ça, on n'abandonne pas les enfants. Et ceux du film ne nous lâchent pas non plus, on les garde avec nous longtemps après la projection. Et je terminerai par une anecdote, celle de la première fois que j'ai découvert ce film au cinéma. Les lumières se sont rallumées et il s'est passé quelque chose d'étonnant. Tous les enfants se sont levés, le sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est eux qui ont dû tirer leurs parents hors des sièges parce que tous les adultes sont restés assis, sciés par l'émotion. Parfois, il faut l'innocence d'un film comme Ma vie de courgette pour se rappeler que les adultes aussi peuvent être des enfants abandonnés.
Avec la version de Sophie Hunger de cette chanson de Noir Désir.
Et qui signe la BO du film.
Ouais, magnifique, Ma vie de courgette, c'est vraiment sublime. C'était un plaisir de se replonger dedans avec vos mots. Merci. Léo Carman, merci beaucoup. Les goguettes, vous avez suggéré de parler humour politique. Est-ce qu'il est forcément ou de droite ou de gauche? Cette frontière partisane est-elle pertinente? Si oui, faut-il être de gauche pour faire rire des gens de gauche? Faut-il être de droite pour faire rire des gens de droite? Vous y avez pensé notamment puisque Gaspard Proust a accepté de jouer au congrès du journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, tandis que certains humoristes sont suspectés d'être le bras armé de la bien-pensance. Qu'est-ce que l'humour de droite? Exemple d'humour de droite.
Jésus est pédé, Jésus écoute Mylène Farmer, Jésus est membre des LGBT, sur la croix, pourquoi l'avoir cloué, pourquoi pas l'avoir enculé, Jésus est pédé, il n'y a pas que l'hostie qu'il faut sucer.
L'humour de droite, c'est Alain Finkielkraut. Bah, bravo, bravo, le CSA. J'espère que vous allez réagir au CSA. Alors, faut-il être de gauche pour faire rire les gens de gauche, de droite pour faire rire les gens de droite? C'est une question que vous vous posez, avez-vous la réponse?
C'est Aurélien qui a décidé du sujet.
Hein. Il n'est pas là, pas de bol. Vous dites notre public n'est pas toujours celui qu'on attendait.
Ben c'est marrant de voir des fois que certaines parodies font rire au-delà des bords politiques peut-être qu'on pourrait attendre. On avait fait Stan avait écrit une goguette sur l'air de elle préfère l'amour en mer. Il avait écrit elle préfère Bruno Le Maire il y a quelques années pour la primaire des Républicains à l'époque, c'est ça, je m'arrête si je dis une connerie. On a appris après que cette chanson, donc il se moquait quand même un petit peu de Bruno Le Maire et un petit peu qui faisait la caricature d'une militante versaillaise bourgeoise cato, etc., s'était retrouvé en sonnerie de portable du directeur de campagne de Bruno Le Maire. Et ce qui nous avait valu d'ailleurs nos premières apparitions médiatiques à l'époque, puisque c'était le mec qui passait à la radio et à un moment son téléphone sonne et ça fait « Elle préfère Bruno Le Maire !» Et la journaliste elle avait fait « Mais c'est quoi ça ?» Et là il dit « Ah c'est un groupe !» Et c'est comme ça qu'on est passé à la télé les premières fois.
La première fois, ouais. D'ailleurs,
dans l'émission de Zemmour.
Zemmour, on avait entendu.
Est-ce que cette récupération vous a embêté ou pas?
Oh bah non, parce que en plus c'était une chanson qui était moqueuse qui caricaturait une militante, enfin quelqu'un qui préférait Bruno Le Maire à Nicolas Sarkozy. Donc ça mettait aussi un peu en valeur Bruno Le Maire par rapport à Nicolas Sarkozy qui était vulgaire. Ah, en
fait. L'auteur intervient.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'était la droite un peu conservatrice traditionnelle contre la droite bling-bling, un peu beauf de Sarkozy. Quoi.
Donc ça veut dire qu'il y a de toute façon différentes droites qui peuvent peut-être rire les unes des autres et se retrouver dans vos chansons.
C'est
aussi.
Ça.
C'est un peu ça l'idée.
Ouais, puis de toute façon, nous, on a globalement un public, quand on joue dans des théâtres et tout ça, on a un public, je pense, qui est plutôt centre-droit. Enfin, non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est une histoire d'humour. Et comme on n'est jamais, nous, on n'est pas méchant, on n'est jamais agressif. C'est
et
ce qu'on nous dit.
Une fois qu'on a un peu de recul sur soi-même, le bord, on peut rire, puisque c'est le rire que vous cherchez avant tout, j'imagine.
À propos de cette chanson, j'avais une élève qui était très BCBG qui m'avait dit j'adore cette chanson parce que c'est moi.
C'est gens qui ont du recul et qui sont capables d'en rire. Les goguettes, Juliette Arnaud a préparé un questionnaire de par Jupi Proust pour vous.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des trios qui n'en sont pas.
Oui.
10 étant le groupe trio car ils sont 4. 0 étant les To Be Free car ils étaient bien 3. Vous êtes à combien?
9.
Voilà.
Ah oui, il n'y a pas de raison. 9.
10, ouais,
oui, bien sûr. Ouais, si vous pouviez faire rejaillir le feu d'un ancien quatuor comme vous, ce serait lequel?
Les frères Jacques.
Ah ouais. J'allais vous proposer les Spice Girls. Très bien. J'irai revoir ma Normandie et l'International sont deux chansons célèbres écrites par des goguetiers. Oui. Laquelle voudriez-vous pouvoir revendiquer?
Ah bah, j'irai revoir ma Normandie. Alors là, sans hésitation.
Il est un peu chauvin. Ouais, son défaut principal.
J'entends un petit peu. Vous pouvez faire la première partie d'une immense vedette. Vous pouvez faire soit la première partie de Aya Nakamura, soit celle de Georges Brassens, soit celle de Jean-Luc Mélenchon.
Georges Brassens.
Georges Brassens.
Bien sûr. Si vous deviez adapter sexe, drogue et rock'n'roll à votre mode de vie, ça serait quoi? Sexe, bière, bio et guinguette? Ouais, on garde toujours le sexe.
D'accord.
Oui?
Non.
Oui.
Oui, si, à fond, ouais.
C'est bien. Tant qu'il y a le sexe.
Tant qu'il y a le sexe, on est d'accord. Ouais. Vous pouvez intégrer un chansonnier dans votre groupe, vous prenez Pierre Dac, Thierry Leluron ou Odette Laure. Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes chez les chansonniers.
Frédéric Fromet, hein.
D'accord, oui, très bien. Les autres, allez-vous-en. Avec lequel de vos partenaires, Valentin par hasard, par exemple, vous partiriez en vacances? Charline, par exemple, elle est d'accord pour partir avec nous tous, même moi.
C'est vrai. Hein. Ouais. Bonne question. Pas avec Aurélien en ce moment, parce que.
Parce qu'il a la syphilis. Parce qu'il a la syphilis. Trop de sexe.
Non, je partirai avec Clémence là présentement parce qu'on a une chanson à répéter pour demain.
Ah bah, petite vacances ce soir alors.
Ouais, et d'accord. Alors, avec lequel de vos partenaires vous ne partez pas en vacances? Vous pouvez dire Aurélien.
Oh, le pauvre.
Oh, oui. Il est positif.
Non, on part tous avec lui. Allez. Tant pis, on fait un petit cluster.
Allez, cas contact.
Une dernière, si vous voulez.
Si vous pouviez inventer et chanter les paroles d'un générique d'une émission de télévision, vous choisiriez laquelle? The Voice, le journal de 20h ou Silence, ça pousse?
C'est quoi ça, Silence, ça pousse?
Moi, je connais pas.
C'est des herbes qui sortent de la terre parce que c'est le jardinage.
Ah, c'est joli, non?
Il faut qu'on le chante ou...
Non, vous pouvez imposer ça.
Le journal de 20h.
Journal de 20h.
Et on embrasse Aurélien qui est à l'isolement, comme bien des gens. Merci Stan, Clémence, Valentin, les goguettes en trio, mais à quatre. Je rappelle votre dernier album, Le temps béni de la pandémie. Il y a la tournée, le spectacle Globalement d'accord, qui passe notamment le 3 juillet au festival Les Estivales du Canal à Vierzon. Il y a des dates à Bourg-en-Bresse, Saint-Chamond, Lille ou Colmar. Et puis Paris, c'est complet, mais vous reviendrez en 2023 à Paris, à la Cigale et aux Folies Bergères pour fêter vos 10 ans.
Oui,
et merci beaucoup et merci pour ce live que vous nous avez proposé, que nous allons partager en vidéo bien sûr.
Merci.
Je vous dis
merci
à Mélanie Bauer, merci Léo Carman, merci Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. À demain, vendredi, nous retrouverons notre goguette Frédéric Fromet. Je me rappelle le jour où on l'a recruté.
T'as fait des trucs graves toi avant qu'on se connaisse? Non, à part chanter à la fête de l'Huma il y a 10 ans.
Et voilà.